Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est maintenant l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche politique.
Philippe Le Caplin.
À 3 semaines de la présidentielle, voici les propos qui comptent, les petites phrases qui font mouche et les polémiques qui ne manquent jamais. Et c'est maintenant à décrypter avec vous, Stewart Shaw. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur des études politiques et sociétales de l'Institut de sondage Via Voice et vous êtes l'auteur de L'opinion des émotions que vous avez publié il y a 3 jours de cela aux éditions de l'Aube et à la Fondation Jean Jaurès.
Ne vous cachez pas derrière les divergences entre les chefs et les étiquettes. C'est vous qui faites la décision. Ne vous dérobez pas. Prenez le pouvoir. Votez.
C'était tout à l'heure à Paris, place de la Bastille. Des gens dans la rue à l'appel de Jean-Luc Mélenchon qui espère galvaniser un front populaire à même de le propulser au second tour. Aurélien Devernois, vous avez couvert ce rassemblement pour RFI. Cette marche du candidat La France Insoumise a-t-elle fait le plein ?
Oui, elle a fait le plein en effet. Alors évidemment, ce qui était avancé par le camp de Jean-Luc Mélenchon, 100 000 participants, est très probablement exagéré. Il y avait plus certainement plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mais Jean-Luc Mélenchon, une nouvelle fois, a prouvé sa capacité de mobilisation, ce que lui seul, à gauche en tout cas, est capable de faire dans cette campagne. Alors l'ambiance était assez bon enfant, avec des chants, beaucoup de drapeaux. Et puis on a vu aussi un mini-char en forme de tortue qui est devenu l'animal totem de Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne. Et beaucoup de gens qui étaient sur place m'ont d'ailleurs dit que la dynamique actuelle de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages, eh bien, c'est la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, vous la connaissez, rien ne sert de courir, il faut partir à point.
Alors bien sûr, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole. Quel était ce dimanche l'axe principal de son propos ?
Alors, la question de la mobilisation électorale, ça a été très important. Il a commencé là-dessus. C'est très important pour lui que le maximum de personnes votent le 10 avril. Alors, on l'a entendu tout à l'heure en ouverture de l'émission, il a lancé des appels aux électeurs et notamment aux électeurs, sans les nommer, socialistes, communistes et écologistes, dont les candidats sont distancés dans cette campagne. Il faut mettre de côté donc les querelles des chefs, des partis, pour ce qui va être, selon lui, un référendum de choix de société. D'un côté, Emmanuel Macron et la retraite à 65 ans, les bas salaires et la marchandisation de l'école. Et de l'autre, donc, Jean-Luc Mélenchon, retraite à 60 ans, revenu minimum à 1 400 € net et protection de l'éducation nationale. Les professeurs, il en a beaucoup parlé, c'est un vrai enjeu électoral pour Jean-Luc Mélenchon, qui avait obtenu un peu moins d'un quart des voix des enseignants en 2017 contre près de 40% pour Emmanuel Macron. Dans un premier tour qui s'annonce serré, cela pourrait jouer, estime-t-on, dans le camp Mélenchon. Et puis il y a aussi eu des clins d'œil appuyés au mouvement de contestation de ces 5 dernières années. Et bien sûr, les Gilets jaunes. Jean-Luc Mélenchon promet l'amnistie pour tous ceux qui ont été condamnés dans le cadre des manifestations. Là, il s'adresse peut-être davantage aux abstentionnistes, sa principale réserve de voix, selon le candidat de l'Union Populaire.
L'abstention, justement, on en reparlera tout à l'heure. Merci Aurélien Devernois. Stewart Shaw de Via Voice, le tribun de la gauche radical qu'est Jean-Luc Mélenchon, se situe selon la moyenne des sondages entre 3e ou 4e position.
Oui, c'est vrai qu'alors il y a une dynamique de vote sur le dernier mois pour Jean-Luc Mélenchon. Il fait plus 4 points sur un mois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a un socle électoral qui est plutôt solide. 48% des électeurs qui ont voté Jean-Luc Mélenchon en 2017 seraient prêts à revoter pour lui en 2022, enfin là dans quelques semaines. Je vois moi 2 écueils. Le premier écueil, c'est effectivement un étiolement de certains votes, notamment à gauche. Il y a quand même 10 à 12% des électeurs Jean-Luc Mélenchon 2017 qui seraient prêts à voter Roussel, autant qu'ils seraient prêts à voter Yannick Jadot, le candidat écologiste. Donc si vous faites la somme des deux, ça fait quand même un score qui n'est pas négligeable. Et enfin, et votre journaliste le rappelait très bien, le principal risque de Jean-Luc Mélenchon, finalement, c'est celui de l'abstention, puisqu'il est fort que lorsqu'il y a beaucoup de votants, on se rappelle d'ailleurs qu'en 2017, il avait fait 2 scores très élevés chez les ouvriers et chez les demandeurs d'emploi.
Justement, une fois de plus, l'abstention inquiète. C'est le cas d'Adrien Quintenens, de La France Insoumise, justement, l'un des lieutenants de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le.
Certains disent, vous savez, ça sert plus à rien d'aller voter. Et ils ont 1000 raisons de penser ça. Ils ont été trahis, on leur a fait des promesses qui n'ont pas été respectées. Mais moi, je leur dis, écoutez, vous croyez vraiment que ça sert à rien d'aller voter? Alors pourquoi ceux d'en face, ils y vont? Parce que les électeurs de M. Macron, eux, ils vont y aller. Eux, ils ont déjà mis le réveil matin pour le 10 avril parce qu'ils en ont pris plein les poches des mesures fiscales de M. Macron. Ils se sont beaucoup enrichis. Et donc, vous ne devez pas laisser votre voix passer. Il faut y aller. Et désormais, oui, la grande question qui est posée, c'est quel second tour? Et je crois qu'il y a un tiercé qui se dégage. Est-ce que c'est M. Macron, Mme Le Pen, c'est-à-dire un mauvais remake de 2017, ou est-ce qu'on impose, parce que celui-là, il ne pourra pas l'éviter, M. Macron, le débat de second tour ?
À qui profite l'abstention et au détriment de qui se fait-elle, Stewart Shaw ?
Déjà, au détriment de qui, c'est vrai que si on regarde ceux qui sont le moins certains d'aller voter, on a une surreprésentation effectivement de personnes, d'électeurs Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Donc effectivement, c'est ces deux candidats qui pâtissent le plus de cette abstention. On a un indicateur de participation, selon mes confrères de Ipsos, à 67%, c'est-à-dire qu'en taux d'abstention, on serait quand même à 33%. On se rappelle qu'en 2002, le chiffre à ne jamais dépasser, on était à 28%. Donc plus 5 points, effectivement, ça s'annonce extrêmement massif en termes de poids électoral.
Un Français sur trois qui n'irait pas voter.
Absolument.
Est-ce que tout ça est lié finalement au fait que Emmanuel Macron cartonne à 29-30% dans les derniers sondages ? C'est-à-dire qu'il écrase le match et comme ce serait joué, pas besoin de glisser son bulletin dans l'urne.
Il y a plusieurs éléments d'explication. Ça peut être une hypothèse. Effectivement, l'élection est un petit peu jouée d'avance et c'est vrai que l'intérêt pour la campagne présidentielle, plus on avance, plus elle s'affaiblit. Donc ça, c'est quand même contre-intuitif et c'est assez risqué et dangereux. Le deuxième élément, c'est quand même la crise, je pense, politique hein, qui frappe le pays depuis un certain nombre d'années, hein, crise politique, crise du résultat politique. Et je pense qu'on est face à un quinquennat qui a été empêché par les crises. On a une campagne qui est, elle aussi, effacée par la crise en Ukraine. Ça pose beaucoup, beaucoup de questions.
À trois semaines du premier tour, cette photo, hein, à l'instant T, c'est comme ça qu'on définit les sondages aujourd'hui. Emmanuel Macron, 29%, Marine Le Pen, 17,5%, Jean-Luc Mélenchon, 13,5%, Éric Zemmour, 13%, et Valérie Pécresse à 11%. Finalement, c'est stable, ça ne varie guère ces sondages, de jour en jour.
Oui, c'est stable. Alors, c'est stable dans la photographie globale. Par contre, pour la troisième place, c'est vrai qu'on est face à des dynamiques, à des mobilités qui sont assez importantes. On parle par exemple de Valérie Pécresse qui, depuis le mois de janvier hein, jusqu'à maintenant, elle ne cesse finalement de baisser. Éric Zemmour est aussi dans une dynamique un peu négative. Pour Marine Le Pen, vous avez raison de le rappeler, c'est assez stable, même sur son socle électoral. Sa sujet de vote n'a pas forcément bougé. Pour Emmanuel Macron, on a une augmentation de l'intention hein, sur un mois à la lueur de la crise en Ukraine.
Oui,
et la dynamique Mélenchon.
Il a pris 5-6%. Il a pris grâce, si l'on peut dire, à la guerre en Ukraine.
C'est l'immunité, je dirais, présidentielle qui lui est conférée à la lueur de cette guerre.
Vous écoutez Dimanche Politique sur Radio France Internationale.
Philippe Le Caplain.
J-21, donc avant le premier tour de la présidentielle. Marine Le Pen en campagne dans les villages de Bourgogne. Sa stratégie continue à marquer des points sur l'unique thème du pouvoir d'achat. Reportage de Julien Chavanne.
Sur le petit marché de Courtenay, Marine Le Pen est comme chez elle. Bien accueillie, selfie, bise, autographe et un seul et unique thème.
Il n'y a que le carburant, c'est un peu dur. Là, ça pique un peu. Hein.
Avec le boucher, avec l'infirmière, avec le chauffeur routier, un seul sujet, la hausse des prix de l'énergie. Marine Le Pen se revendique comme la candidate du pouvoir d'achat.
Bah, un certain nombre de candidats n'en parlent pas du tout. Ils considèrent même que c'est méprisant de parler du pouvoir d'achat. J'ai évoqué le pouvoir d'achat depuis plus de 8 mois. Je fais campagne sur ce sujet parce qu'en réalité, déjà avant la guerre en Ukraine, les prix avaient explosé.
Le pouvoir d'achat reste la première préoccupation des Français. Julien Chavanne, sur les routes de Lyon, RFI.
Et le camp rival du RN, celui d'Éric Zemmour, dénonce la manière dont le président sortant veut gérer cette crise du pouvoir d'achat. Marion Maréchal sur Europe 1 ce matin.
À l'occasion de son programme, parlait à de très nombreuses reprises de la mise en place d'instances de concertation. Alors il y a des mots très différents, les états généraux,
les commissions transpartisanes.
Voilà. C'est quelque chose qu'il avait fait avec la commission, vous savez, transpartisane du climat,
oui,
c'est quelque chose qu'il avait
débat.
Fait avec le grand débat. Ça veut dire qu'on ne dit plus finalement le débat, le consensus, c'est au moment de l'élection. On dit finalement élisez-moi, ça c'est une formalité, puis après on va débattre, et puis après je vais aller consulter les Français. Et ça c'est quand même la marque d'une dépolitisation. On voit bien que c'est quand même des exercices extrêmement maîtrisés, au passage organisés d'ailleurs par le cabinet de conseil américain McKinsey, qui manifestement ne paye pas ses impôts en France.
Marion Maréchal qui dénonce les lobbies, tout comme à l'autre bout de l'échiquier politique, Yannick Jadot sur France 3.
C'est quand même extraordinaire qu'on a des hauts fonctionnaires d'une qualité remarquable dans notre pays. Dès qu'il y a quelque chose à faire, on fait appel à des cabinets qui viennent avec des logiques ultra-libérales, qui viennent à prix d'or venir dans les hôpitaux, dire qu'il faut supprimer ces lits-là, nous expliquer qu'il faut supprimer les APL.
Et qu'est-ce qu'il faut faire après les révélations du Sénat ?
Il faut les sortir totalement des politiques publiques. Mais il faut surtout sortir celles et ceux qui ont fait ces contrats-là. On est dans un quinquennat qui a été gouverné par les lobbies, gouvernée par les lobbies sur les pesticides, sur la chasse, sur le pétrole et sur le gaz, gouvernée par les lobbies pour casser nos services publics. Vous vous rendez compte que ces personnes qui sont payées 2500 euros la journée, c'est eux qui font des recommandations pour dire il faut faire travailler les bénéficiaires du RSA qui ont 5 fois moins pour un mois.
Yannick Jadot sur France 3. Et sur cette même chaîne, Valérie Pécresse a martelé ses mesures phares.
Aujourd'hui, moi, ce que j'avais réclamé pour l'essence, c'est que l'État rende tout le surplus des taxes qu'il a collecté grâce à la hausse des prix. Et on me dit que le surplus des taxes, c'est 25 centimes. Or, il ne rend que 15 centimes. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi on ne rend pas l'intégralité du surplus des taxes. Il n'est pas normal que l'État se fasse des bénéfices sur la hausse des prix. Ouais. Et puis, par ailleurs, il y avait une demande des entreprises qui me paraissait tout à fait légitime, c'est qu'elles puissent faire, comme elles font des chèques restaurants défiscalisés, qu'elles puissent faire des chèques carburant à leurs salariés qui viennent travailler.
Et puis Adrien Quatennens de la France Insoumise qui explique pourquoi son candidat Jean-Luc Mélenchon appelle à voter pour lui dans ce registre.
Ce pays, la France, produit 2300 milliards de richesses chaque année qui sont très mal réparties. À l'heure où l'on se parle, vous avez 5 personnes, 5 milliardaires, accrochez votre ceinture, qui détiennent à L5 autant que 27 millions de la population. 40% des Français. Donc la question du partage des richesses, elle est évidemment un vrai sujet. Augmenter les salaires, c'est-à-dire ça a été beaucoup le temps du capital, c'est maintenant avec nous le temps du travail. Augmenter le SMIC en le portant à 1400 euros net. Faire en sorte que personne, quelle que soit sa condition sociale, n'ait à subir l'humiliation qui consiste à vivre sous le seuil de pauvreté.
Stewart Shaw de Via Voice. Jamais depuis bien longtemps une campagne électorale n'avait été à ce point impactée par la hausse des prix et la baisse du pouvoir d'achat.
Oui, on est dans un contexte d'inflation française, européenne, qui est massive. Je pense que là, les Français sont évidemment conscients de ça. Ça agit concrètement dans leur quotidien. 57% des Français estiment, selon mes confrères de d'Ipsos, que c'est le pouvoir d'achat qui va déterminer leur vote. 57%, c'est énorme, très loin devant les autres sujets. 27% la guerre en Ukraine, 26% la santé, 24% l'immigration. Donc vous voyez, le pouvoir d'achat, c'est effectivement le sujet majeur de cette élection présidentielle.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que jusqu'à présent, c'était plutôt une thématique syndicale, la défense du pouvoir d'achat. Des syndicats qui, au passage, ne se font pas entendre dans cette campagne électorale.
Oui, on est face à une campagne qui est assez étonnante de ce point de vue-là. C'est qu'effectivement, le pouvoir d'achat est en train d'émerger quand même assez largement dans le débat public. Et pour autant, on est face à une crise des institutions. Hein. On le voit très très bien. Les Français ne croient plus du tout, un, en l'action politique et en l'action des corps intermédiaires pour apporter des résultats efficaces contre cette hausse des prix générale.
Stewart Shaw, directeur des études politiques et sociétales à l'Institut de sondage Via Voice. Sur les estrades, dans les tribunes et sur les ondes, il est beaucoup question de la guerre en Ukraine, de l'inflation, on vient d'en parler, et aussi un peu d'écologie. La crise énergétique pose la question de la relance du nucléaire. Adrien Quatennens au grand rendez-vous d'Europe 1.
Pas de dogmatisme sur le sujet. Personne ne dit qu'on va sortir du nucléaire demain matin. En revanche, dire on prend une décision politique. C'est de se fixer un horizon par lequel on sort. Le retard sur Flamanville, les surcoûts, les déchets, qu'est-ce qu'on en fait ? Très très compliqué. Les centrales avec les pieds dans l'eau. Donc, c'est pas un choix idéologique, c'est un choix en effet de raison. On peut aller vers le 100% d'énergie renouvelable, mais le nucléaire n'est pas une source d'indépendance énergétique aujourd'hui. La France ne produit pas d'uranium. La France peut être aux avant-postes d'une grande bifurcation, et notamment à travers la planification écologique d'aller vers 100% d'énergie renouvelable.
Et puis, regroupant une trentaine d'ONG pro-environnement, le réseau Action Climat a passé au crible les programmes des 8 principaux candidats concernant la lutte contre le changement climatique. 7 grands axes sont notés, l'industrie, les transports, l'agriculture, le logement, l'énergie, l'international et la finance. Qu'est-ce qui en ressort, Lucas Désiré ?
Premier de la classe, comme une évidence, on retrouve Yannick Jadot, le patron des Verts, à égalité avec Jean-Luc Mélenchon. Bien plus à gauche sur l'échiquier politique, le candidat de la France Insoumise propose pourtant un programme aussi musclé sur le plan écologique que celui de son homologue d'Europe Écologie Les Verts, d'après les ONG. Le rapport mentionne des programmes ambitieux et précis pour l'un comme pour l'autre, seul élément à améliorer, l'international. Anne Hidalgo et Fabien Roussel manquent, eux, de clarté. Le rapport évoque même des propositions hasardeuses pour le candidat du Parti communiste à propos de la transition énergétique. Viennent ensuite les mauvais élèves, ceux qui n'ont pas convaincu sur aucun des 7 axes. Pas de solution à court et moyen terme pour les énergies renouvelables. Des propositions parcellaires pour les transports, peut-on lire sur le programme d'Emmanuel Macron. Idem pour Valérie Pécresse, avec des idées jugées très faibles ou pas à la hauteur. Marine Le Pen est elle aussi notée sévèrement. Selon le rapport, elle ne saisirait pas l'enjeu de la transition énergétique. Enfin, Pour Éric Zemmour, les ONG indiquent surtout un manque de propositions sur la plupart des enjeux écologiques.
Lucas Désiré de RFI. Stewart Shaw avec la guerre en Ukraine, la hausse des prix. La cause écologiste n'est-elle pas la grande perdante, la grande oubliée de cette campagne électorale ?
Je ne suis pas sûr. Hein, si on regarde là aussi hein, les sondages, on remarque quand même que c'est le troisième élément sujet qui va déterminer le vote des Français. Alors on a dit le pouvoir d'achat, on a dit l'Ukraine, mais troisième, c'est l'environnement. Donc vous voyez, c'est quand même un sujet qui est peut-être absent un petit peu du débat public dans sa formulation, mais qui est très présent à l'esprit. D'ailleurs, la question des énergies, de la souveraineté énergétique française, de l'indépendance, en est un des porteurs dans cette campagne.
Est-ce que l'opinion française évolue sur le nucléaire avec la crise énergétique de ces derniers mois ?
Alors, je n'ai pas de chiffres très frais, mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'un de mes confrères, Odoxa, il me semble, il y a un an tout pile, montrait que 59% des Français déjà étaient favorables au nucléaire. Un autre confrère disait que 50% des Français y étaient favorables à l'idée selon laquelle le nucléaire est un atout pour la France. Vous voyez, donc on a quand même l'idée d'une population française qui d'abord est à la recherche de solutions alternatives et qu'en dépit de ne pas voir de solutions alternatives, voit le nucléaire comme une solution peut-être la moins pire que les autres.
Alors, dans trois semaines, le 10 avril, les Français vont voter pour ce premier tour de la présidentielle. Après, il y aura la formation d'un nouveau gouvernement. Ensuite, sont programmées des élections législatives en juin. En théorie, car Anthony Lattier, le bruit circule d'une dissolution de l'Assemblée nationale juste après la présidentielle.
Oui, c'est un scénario imaginé par certains proches du président Emmanuel Macron, dissoudre l'Assemblée nationale juste après une éventuelle réélection d'Emmanuel Macron le 24 avril. Cela provoquerait des élections législatives plus tôt que prévu, alors que le scrutin est programmé en juin, 8 semaines après la présidentielle.
8 semaines, c'est 2 de plus qu'en 2017. Certains estiment que c'est trop.
Oui, ils se disent que plus le temps passe, plus l'effet de souffle d'une victoire à la présidentielle pourrait s'amenuiser. Et alors, moins importante serait la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Chaque semaine qui passe, dit-on, c'est 15 députés en moins. Sauf que ce scénario d'une dissolution est loin de faire l'unanimité. Trop électoraliste, dit un ministre. Trop tactique, renchérit un cadre de la majorité. Un tel coup de poker pourrait avoir l'effet inverse dans l'opinion que celui recherché. Gagner 15 jours, quel intérêt ? S'interroge un autre dirigeant de la majorité.
Et au-delà de cette réflexion, les législatives, ce sont aussi des candidatures à attribuer. Et sur ce point aussi, la majorité réfléchit.
Oui, c'est un peu le calme avant la tempête. Tous les stratèges de la majorité présidentielle anticipent en effet des négociations très dures entre les différents partis qui soutiennent Emmanuel Macron. Mais tout cela, ce sera après la présidentielle. Aucun nom de candidat ne sera annoncé avant. Ce n'est pas le choix qu'ont fait d'autres partis, comme celui de Marine Le Pen, qui investit déjà des candidats. Dans le camp d'Éric Zemmour, une rue de négociations se prépare là aussi entre tous ceux qui ont rejoint Reconquête, notamment Marion Maréchal qui a négocié son ralliement contre des investitures pour elle et pour ses proches. Du côté de la droite et des Républicains, les investitures ont là aussi commencé, mais certaines sont en suspens. D'éventuels candidats ne veulent pas se mouiller, glisse une cadre de LR, car en fonction du résultat à la présidentielle, certains pourraient quitter le navire et rejoindre le camp d'Emmanuel Macron.
Et à gauche également, ça discute.
Oui, à part entre Insoumis et socialistes, où on ne se parle pas, les états-majors des partis de gauche sont en lien. Il s'agit de trouver des accords pour ne pas qu'il y ait des candidats de tous les partis de gauche dans chaque circonscription. Les discussions sont par exemple très poussées entre communistes et socialistes. La guerre en Ukraine a créé de nouvelles tensions entre les candidats Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo autour de leur positionnement vis-à-vis de la Russie. Mais ce qui est sûr, c'est que malgré ces divergences, tous sont obligés de négocier pour ces législatives, car à part pour Jean-Luc Mélenchon, la présidentielle s'annonce mal.
Stewart Shaw, pour l'instant, tout le monde a les yeux rivés sur l'Élysée, mais beaucoup d'autres regardent déjà vers l'Assemblée nationale.
Oui, beaucoup d'autres, et je pense que c'est le cas à la fois à gauche et à la fois à la droite de la droite. Hein. C'est vrai qu'on est dans une campagne qui semble un peu empêchée, avec un score ou un duel de second tour qui semble déjà être un petit peu écrit. La question, c'est quelle sera la France politique au lendemain du second tour de la présidentielle. La dissolution de l'Assemblée, portée par un certain proche du président de la République, montre bien qu'il y a effectivement une crainte pour la majorité présidentielle de se dire, est-ce que vraiment il y aura une désirabilité derrière la réalité.